Vous le savez peut-être, et si vous l'ignorez, on vous l'apprend. L'antisémitisme existe aussi en Chine, et il serait même en hausse depuis l'attaque barbare des terroristes du Hamas. C'est en tout cas ce qu'affirme Tuvia Gehring, chercheur à l'INSS, l'Institut d'études sur la sécurité nationale, affilié à l'Université de Tel Aviv. Blaise van der Linden, vous avez décidé de parler de cela avec notre géopolitologue maison, et c'est Daniel Haber qu'on retrouve à votre micro.
Daniel Haber, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, nous n'allons pas faire cette interview dans le cadre de nos conversations. Aujourd'hui, nous allons parler de l'antisémitisme en Chine, Daniel Haber, avec le conflit qui fait rage maintenant depuis le 7 octobre. C'est un problème qui est venu à nos oreilles. Alors pour commencer, Daniel Haber, comment est-ce qu'on caractérise cet antisémitisme en Chine ?
D'abord, ça vient comme une surprise parce qu'on pensait que, au contraire, les Chinois avaient une forme de fascination, d'admiration pour les Juifs en général et les Israéliens en particulier. Mais vous savez, quand vous admirez trop un peuple ou une organisation, vous êtes tout près de distinguer ce peuple des autres et vous les traitez comme des gens différents. Et donc, on peut tomber d'un extrême à l'autre. Bon, c'est quand même surprenant parce que toute l'histoire entre les Juifs et la Chine et entre Israël et la Chine est positive. Je le rappelle parce que c'est important, hein, sur l'histoire des Juifs, c'est dès les routes de la soie au XIe siècle, des marchands juifs venant d'Irak se sont installés dans une grande capitale de Chine qui s'appelle Kaifeng et ont fait souche là-bas, sont devenus chinois au fond, tout en conservant certaines traditions chinoises qu'on a retrouvées jusqu'à il y a peu de temps, hein, jusqu'à il y a 50 ans encore, pratiquaient par exemple le Shabbat. Bon, donc si vous voyez, il y a une vieille histoire. Et puis surtout, au XXe siècle, il y a eu deux grands moments où les Chinois ont beaucoup aidé les Juifs. C'était en 1917, au moment de la Révolution, les Juifs russes qui voulaient pas devenir communistes se sont enfuis. Alors, il y en a qui sont partis en Occident, mais certains sont partis au nord de la Chine, dans une ville qui s'appelle Harbin, qui est une capitale du nord de la Chine, de la Mandchourie, où ils ont fait souche, ils ont construit des bâtiments, des hôtels, des synagogues, des cimetières. Et il y a encore des traces de la vie juive là-bas qui était très positive. Et puis, surtout, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, vous aviez Shanghai, qui a servi de refuge à une trentaine de milliers de Juifs, notamment autrichiens et allemands, qui finalement ont survécu à la guerre, alors que la Chine à l'époque a été occupée par les Japonais qui étaient très proches des nazis. Les nazis n'ont pas réussi à convaincre les Japonais d'exterminer les Juifs de Shanghai, et ces Juifs de Shanghai ont été finalement protégés par ceux des Juifs qui étaient déjà en Chine depuis longtemps, et puis par les autorités chinoises qui les traitaient plutôt bien. Donc vous voyez, on a une histoire très positive. La plus grande positivité, c'est tout récemment, et en particulier entre 1972, qui est la date à laquelle Nixon a serré la main de Mao grâce à un juif, Kissinger, et ça les Chinois le savent, jusqu'à 1992 où la Chine a établi des relations diplomatiques officielles avec Israël. Pendant cette période-là, les Américains et les Chinois étaient très proches et ont demandé souvent à Israël de les aider, notamment à fournir du matériel de toutes sortes, donc militaire, qui étaient souvent des tanks russes. Des trois guerres qu'avait mené Israël sur son territoire contre les Arabes, que les Israéliens avaient modernisé, revendaient aux Chinois pour le compte des Américains. Donc vous avez toute une histoire positive. Et puis à partir de 92, quand les relations diplomatiques ont été établies, les Chinois se sont enthousiasmés pour la technologie israélienne, et en particulier à partir de 2008, qui est la grande époque où les Chinois se donne un horizon technologique. Israël était considéré comme le second meilleur endroit pour trouver des technologies après les États-Unis. Et comme ça marchait de moins en moins bien avec les États-Unis, c'est le fameux succession entre Obama, Trump et Biden, il y a eu la confrontation avec les Américains, les Chinois ont considéré qu'Israël était un bon substitut aux technologies américaines. Malheureusement, la confrontation avec les Américains a conduit les Américains à faire pression sur Israël pour diminuer ces ventes de technologies à la Chine. Alors du coup, un petit peu, la Chine en veut à la fois aux Américains et un peu aux Israéliens qui sont considérés comme ensemble. Alors d'où vient l'antisémitisme? de mon point de vue, il reste marginal. Il reste marginal. Il est surtout trouvé sur les réseaux sociaux, qui sont donc dans les mains des soit des jeunes, souvent n'ayant pas une forte un fort niveau niveau d'éducation, ou par des gens qui ont rien d'autre à faire que de chercher des idées neuves. Et donc les racines de l'antisémitisme, on les voit pas bien parce qu'il y a jamais eu d'immigration juive massive en Asie, ni au Japon, ni en Corée, ni évidemment en Chine. Et donc c'est de l'antisémitisme qui est importé par des articles de journaux, des livres ou des idées. Et si on voulait résumer les sources principales de l'antisémitisme, on en aurait deux. C'est la réussite juive. Moi, je me souviens recevant en Israël des délégations juives déjà il y a 20 ans, hein, 30 ans. Et la première question, c'est comment vous faites pour avoir si peu de monde si peu de juifs dans le monde et avoir pratiquement un quart des prix Nobel? Donc ça les a beaucoup obsédés. Et donc, ils ont considéré toujours les juifs comme étant les plus intelligents des Occidentaux. Entre parenthèses, vous êtes presque aussi intelligent que nous, les Chinois. Et puis, donc, cette réussite, souvent financière, elle fait l'objet, évidemment, de tout un tas de fascinations, de rumeurs et de fantasmes, on peut dire. Puis la deuxième grande source, c'est le fait que Israël et plutôt les Juifs ont de l'influence sur les Américains. C'est l'influence juive aux États-Unis par la presse, par Hollywood, par mille raisons qui sont d'ailleurs souvent réelles, hein. Et donc, si on est en confrontation avec les Américains, si on en veut aux Américains, on y voit aussi la main des Juifs. Donc, c'est voilà les deux sources qui servent, etc. Puis il y a une troisième source là en ce moment qui est que traditionnellement, surtout depuis Mao, quand Mao a pris le pouvoir, les Chinois sont considérés comme le leader des pays en voie de développement, des pays victimes, des pays pauvres. Et ils ont toujours soutenu les Arabes, les Palestiniens contre les Américains ou les Israéliens. À l'ONU, ils n'ont jamais voté pour Israël. Et ça n'a jamais empêché d'avoir des bonnes relations. Ils disaient aux Israéliens, écoutez, on ne vote pas pour vous, mais on vous aime bien quand même, acceptez, etc. Et donc cette tradition, qu'on pourrait dire pro-arabe, pro-palestinienne, a été renforcée par le fait qu'au moment où la Chine s'est développée, elle a eu besoin du pétrole arabe. C'est le plus grand acheteur de pétrole arabe du monde, les Chinois. Donc ça explique aussi pourquoi ils préfèrent avoir de bonnes relations avec les Arabes plutôt qu'avec Israël. Voilà, on peut dire ça un peu comme ça.
On arrive presque à la fin de notre entretien. En 3 minutes, quel va être l'impact maintenant donc de cette situation générale d'antisémitisme sur les relations entre la Chine et Israël en temps de guerre?
En un mot, aucune. D'abord parce que ce n'est pas une position officielle. Alors il y a un débat en Israël qui est de dire, ben, si c'est sur les réseaux sociaux ou quelquefois dans des articles de la presse officielle chinoise, ça ne peut pas se faire sans l'accord des autorités chinoises, puisqu'il y a une censure très forte, donc on peut supposer. Alors c'est pas faux, mais sauf que pour les Chinois, les thèmes antisémitistes sur les réseaux sociaux ne touchent pas au cœur du pouvoir chinois, ça les embête pas du tout. Donc il y a aucune, au contraire, je dirais ça disperse l'attention des problèmes qu'il peut y avoir en Chine même. Ça c'est un peu les problèmes extérieurs, on divertit. On conduit la colère des Chinois éventuels sur d'autres que sur le gouvernement chinois. Donc au contraire, on laisse faire, mais c'est pas la position officielle. Et donc par beaucoup de canaux, par l'ambassade d'Israël en Chine et par des canaux en Israël, les Chinois nous font dire que c'est pas la politique officielle, qu'ils continuent à avoir envie de commercer, d'investir, de coopérer dans les domaines technologiques avec Israël.
Très très rapidement, en dernière question, aujourd'hui il y avait une réunion avec plusieurs pays arabes incités par la Chine. La Chine a dit vouloir œuvrer pour la paix au Proche-Orient. Elle a un rôle à jouer, la Chine, dans le conflit?
Oui, je crois qu'il faut les croire. Les Chinois ont besoin de paix parce que la paix est nécessaire au commerce. Les Chinois, aujourd'hui, c'est une puissance qui est avant tout économique. Elle va imposer, au fond, une éventuelle domination géopolitique par le commerce et par les investissements. Donc, elle a besoin de paix, et en particulier au Moyen-Orient, parce que le Moyen-Orient est au croisement et sur la route entre la Chine et l'Europe, qui est le grand marché pour les Chinois, le plus grand marché du monde pour les Chinois, c'est l'Europe, et ça passe par le Moyen-Orient, qui est lui-même d'ailleurs un grand marché, puisqu'ils achètent du pétrole, et donc ils ont beaucoup de choses à vendre en échange, des équipements, des infrastructures, des villes entières, et donc tout ce qui est la guerre ne sert pas les intérêts de la Chine. Elle a besoin de paix, et je pense que lorsqu'on reparlera de paix dans la région, je pense qu'on aura besoin évidemment des États-Unis, des pays arabes, mais ça serait pas mauvais que la Chine vienne donner ses garanties de sécurité si elle le pouvait. Ça renforcera les probabilités d'une paix durable.
Daniel Haber, je rappelle que vous êtes géopolitologue. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka. À bientôt.
Au revoir.